À l'âge de 17 ans, moi, j'ai commencé à me soucier de mon départ en Algérie. Parce que on avait un voisin qui avait 23 ans à l'époque, il était en Algérie. Et il habitait à 600 mètres de chez mes parents. Et il a été porté disparu. Et on n'en a jamais réentendu parler depuis. Alors là, j'avais que 17 ans, mais je voyais l'Algérie qui s'amenait. J'ai commencé à réaliser, quoi.
Jean Pilorget a vécu la guerre d'Algérie. Marie-Ange, Jean-Michel, Jean-Baptiste et Thérèse aussi. De près ou de loin, chez eux et avec leurs mots, ils nous ont raconté leur histoire. Parfois, pour la première fois.
Moi, je suis parti en 59. Je me souviens, on est parti à 4 de Plémy, le même jour. Et je les ai tous déposés en cours de route. Et j'ai été le seul à monter à Paris et j'ai été dans l'Est, dans le Nord-Est.
On savait qu'on partait pour 2 ans.
Jean-Baptiste Carreau.
Et 2 ans en Algérie, on savait qu'on aurait été là-bas. Et c'était quand même une grande période de la jeunesse qu'on aurait souffert.
La guerre d'Algérie oppose entre 1954 et 1962 l'État français à des indépendantistes algériens, le FLN. À l'époque, on ne parle pas de guerre, mais d'événements d'Algérie. Au cours de ces années, de nombreux jeunes appelés sont envoyés dans l'ancien département français, officiellement pour une mission de maintien de l'ordre.
On avait passé le conseil déjà. On allait passer le conseil à Plougna, il y avait 10 km, on allait à pied. À l'âge de 19 ans, et ben là, la sélection était faite, quoi. Mais comme c'était l'époque de l'Algérie, il n'y en avait pas beaucoup de réformés parce qu'il fallait des bonhommes.
Jean-Michel Desbordes.
Moi, j'étais plutôt antimilitariste, plutôt modeste. Hein, je mettais pas le feu, je mettais pas de bombes, mais j'étais plutôt antimilitariste. Bon, ceci étant, j'étais un citoyen normal. Je pense que ça faisait partie de mon devoir de citoyen. On m'appelait au service militaire, j'y allais. De partir en Algérie, c'était pas vraiment l'enthousiasme.
Il y en a un qui s'est mis à crier, on part pas, on part pas. Alors, on a fait la grève, quoi. Personne ne voulait monter dans le train. On s'est mis sur la voie de chemin de fer. Ben oui, mais quand la police est arrivée, on a bien été obligé de monter dans le train.
En métropole ou en Algérie, les futurs soldats suivent ce qu'on appelle les classes. Une préparation militaire qui dure entre 2 et 4 mois.
Celui qui tirait trop bien, ben, était classé tireur d'élite. Et moi, comme je me disais, il faut mieux tirer à côté, alors je tirais souvent dans la cible du copain.
Vous faisiez exprès de mal?
Ah oui, volontairement. Pour ne pas être classé bon tireur. Comme j'étais déjà chasseur, j'étais déjà habitué à manier un fusil de chasse. Comme j'étais bon tireur, j'ai dit, il ne faut pas que je me mette bon tireur.
Les nouvelles recrues rejoignent une terre inconnue, l'Afrique du Nord. Pour Marie-Ange Vallot, comme pour bien d'autres, c'est son premier long voyage.
Memren, c'était mon premier voyage en dehors pour sortir de notre cambrousse ici. Le plus loin qu'on était allé, c'était Lamballe. C'est pour ça que je dis que l'Algérie a contribué à dégrossir une certaine partie d'entre nous, des paysans un petit peu trop, comment dire, je ne vais pas dire encrottés, mais oh, j'exagère un peu. Hein. Dans nos campagnes, on ne bougeait pas.
On a mis 40 heures. 38 heures de traversée, une heure pour embarquer et une heure pour débarquer, quoi.
Sur place, les militaires découvrent un pays peu familier. Et pourtant...
Il y avait une grande pancarte, il y avait marqué « Ici la France ». Quand j'ai vu ça, j'ai dit non, c'était grotesque, quoi. Ici la France.
Il y avait je vais pas dire des vétérinaires, mais des médecins qui nous attendaient pour nous seringuer déjà en arrivant. Nous foutre de la piqûre, pour le palu.
Alors on nous avait donné chacun un fusil et 5 balles, c'était pas grand chose. Enfin, ça a été très impressionnant quand on a vu le long des lignes de chemin de fer des ponts qui étaient sautés, des voitures dans le fond des ravins qui étaient brûlées. On nous a surtout dit que passer des consignes, qu'on ne venait pas là pour se battre, mais qu'on venait pour se défendre. Et que si on était attaqué, que si on ne voulait pas mourir, il fallait tuer avant. Voilà ce qu'on nous a dit. Alors là, ça a commencé à donner une chocotte. Hein.
Cette angoisse, les proches des soldats la ressentent également, à distance.
Ça fait peur, c'était la guerre.
Thérèse Mounier est en 1956 fiancée à Robert.
Il parlait fortement qu'il allait partir en Algérie. Et on avait fixé quand même le mariage au 2 mai. Et puis, dans l'intervalle, forcément, il a été rappelé. Et le jour du départ pour l'Algérie, c'était le 2 mai, le jour qu'on devait donc se marier. Et sa première lettre qu'il m'a envoyée, il m'écrivait tous les jours. La première lettre qu'il m'a envoyée, il mettait qu'il venait de recevoir 14 morts qui avaient été tués parce qu'il était à l'hôpital. Ça ne me donnait pas le moral non plus. Des lettres comme ça. Et puis ça a été 6 mois comme ça, toujours dans l'angoisse, de savoir va-t-il revenir, ne va-t-il pas revenir.
L'ensemble des troupes françaises débarquent à Alger ou Oran. Mais par la suite, la majorité des soldats sont envoyés aux quatre coins de l'Algérie, pour des missions souvent différentes.
Nous, on était dans la région des Hauts Plateaux. Et donc, moi, j'ai eu la chance d'être affecté à l'escadron, là où on ne crapahutait pas beaucoup. On faisait simplement les escortes, et les escortes, eh ben, c'était des déplacements en jeep. Moi, je n'ai jamais eu l'occasion de tirer. Une fois, on est allé en patrouille de soir, un soir. On était sur les hauts plateaux. Et de nuit, et simplement, moi, j'étais dans un 4x4. Et le chef de peloton, le chef de section, nous a alertés par radio. Attention, les gars, armez vos fusils, ça devient dangereux. Alors, c'est là que les cheveux commencent à vous brocher sur la tête, et dit hop là, attention, où est-ce qu'on va arriver là? Et puis en fait, tout s'est très bien passé. J'étais à la ferme Pradel. Nous, on était dans une ancienne écurie à vaches. Bon, avec une grande ouverture, bien sûr, comme un hangar. On avait simplement une espèce de filet de vent là, qui nous préservait un petit peu des vents de sable. Mais c'était assez sommaire, hein, quand il faisait des tempêtes de sable, madame, ça nous venait dessus. Hein.
Jean Pilarget.
Et moi, j'étais éclaireur de pointe. C'est-à-dire que j'avais un PM, quoi, un pistolet mitrailleur. J'étais à la frontière tunisienne et ben, ce n'était pas évident pour les Felaga de passer parce qu'ils allaient se former en Tunisie et puis ils cherchaient à repasser le réseau, mais le réseau est électrifié. Et des fois, ben, nous, ça nous arrivait d'aller en embuscade derrière le réseau du côté tunisien. Et ça nous arrivait de trouver des... Ben, de se faire accrocher, quoi. Ah ben oui, on s'est vu, je me suis vu des nuits, moi, marcher en colonne, on ne se voyait pas, on était à 2 mètres en colonne l'un de l'autre, on ne se voyait pas, on se dirigeait au son, tellement il faisait nuit, quoi. C'est là que j'ai réalisé ce qu'était la guerre, quoi, parce que... Je me suis trouvé sur... Ben, c'était des pitons, on était quand même à, je sais pas, à 1000 mètres, quelque chose comme ça, d'altitude, quoi. Je me suis trouvé dans les tranchées, les pieds dans la neige, à monter la garde. C'est là que j'ai réalisé ce que pouvait être une guerre, quoi. Autrement, je pense que celui qui n'a jamais fait la guerre, il ne se rend pas compte de ce que c'est.
Jean-Baptiste Carreau, quant à lui, a occupé plusieurs fonctions en Algérie. Son premier rôle, secrétaire d'un capitaine.
Oui, mais je n'appelle pas un secrétaire, je dis plutôt l'accompagnateur, quoi. Son garde-corps, un peu, par le fait, quoi. Mais c'est-à-dire que je n'avais pas les capacités de faire un secrétaire, moi. Mais je tenais la place, quand même. Ce que je ne pouvais pas faire, c'était le capitaine qui le faisait pour moi. Parce qu'il m'avait pris en estime, quoi. Là, ça a duré quelques mois. C'est qu'après, j'ai été, justement, muté au foyer de garnison. Et là, j'ai été plus d'un an au foyer. Où on était sept régiments différents. Il y avait la Légion, il y avait un du train, il y avait tous les régiments qui étaient dans le secteur. Et j'ai été 3 mois comme barman, et après, j'ai été mis responsable du bar, quoi. C'est une chance que j'ai eue, parce que j'étais quand même bien. Il faut dire que j'étais planqué. Malgré que c'était un régiment pas facile, vis-à-vis les compagnies, tous mes copains qui étaient en compagnie, j'étais très heureux. C'est pour ça que j'avais beaucoup de renseignements, quand les compagnies passaient et venaient boire un coup au foyer. Souvent, ils arrivaient d'opération, il y avait 200 ou 300 militaires, ils rentraient au foyer, ils avaient une demi-heure pour boire un coup. Et c'est là qu'il faut voir comment que ça débitait, la boisson. Je suis resté là tant que le régiment a changé de place. Quand le régiment est parti de là, on est obligé de quitter. Et c'est là que j'ai été muté au deuxième bureau. Deuxième bureau, c'est le bureau où c'est que se passent les interrogatoires et qu'il y a les prisonniers. J'étais ordonnance de 8 sous-officiers. Sergent, sergent-chef, adjudant, adjudant-chef, qui participaient aux interrogatoires et puis et transmettent tous les renseignements qu'ils pouvaient retirer des prisonniers. L'ordonnance des sous-officiers, c'est faire leur lit, et laver le linge, à part le linge de corps, je n'avais pas le linge de corps, mais je lavais le linge autrement et le repassage.
Malgré eux, les appelés sont entraînés dans cette guerre. Ils deviennent alors des témoins de la mort et de la violence.
C'est jamais propre, une guerre, quand il faut martyriser les gens pour les faire les interrogatoires. Ce qui m'avait touché le plus, c'était d'en voir un en plein soleil, là, et torse nu, et couvert de confiture, et couvert de fourmis, bien sûr.
Le FLN, c'était le Front de Libération Nationale. Bon, ils se défendaient pour avoir leur indépendance, et ils avaient raison. Ils en avaient marre d'être exploités par des colons, par des pieds noirs, qui leur mangeaient tout ce qu'ils avaient. On nous disait qu'il faut se battre contre les Félagas, puisque les Algériens, les Arabes, c'était les Félagas. Ceux qui nous tiraient dessus, c'était les Félagas. Donc il fallait, coûte que coûte, les détruire. Et il est bien évident, si vous voulez, quand vous partez au combat, que votre unité, votre régiment est attaqué, qu'on laisse des gars sur le terrain, parce qu'ils ont été ou blessés ou tués, et qu'il faut les ramener quand même, ça met les gars dans un état tel qu'il faut se venger. Et puis quand on rencontre l'ennemi, ma foi, qu'est-ce qui se passe? Chacun tire comme il peut, et puis voilà, ça finit par faire des morts. Et...
Moi, le truc qui m'a le plus marqué, c'est un jour, il y a un gradé qui rentre au foyer, et puis il dit comme ça, on ferme le foyer, tout le monde a donné du sang. Et alors l'adjudant nous dit, on ferme le foyer, et on va, il y avait l'infirmerie juste à côté, parce qu'à côté où j'étais, il y avait la Légion, et il y avait un terrain d'aviation, et il y avait une infirmerie de première urgence, où les hélicoptères amenaient les blessés, et souvent, on donnait les premiers soins, et en plus, on les évacuait. Et est arrivé, on va donner du sang. Alors, on est rentré en infirmerie pour donner du sang. Moi, je me souviens que je n'ai pas pu en donner, parce que quand je suis rentré en infirmerie, on voyait tout le monde qui était sur des civières, là. Et puis, quand je suis rentré, il y en a un qui criait, qui appelait sa mère. Quand on appelle la mère, c'est pas bon signe. Moi, je suis tombé à les pommes. Pas plus le donner. Quand on est là-bas, la vie militaire, c'est pas la même que dans une caserne ici. Il y a une très grande discipline vis-à-vis le respect pour les armes, tout soit propre, tout soit en ordre, mais il y a une camaraderie qui, aussi bien avec un sous-officier, même un officier, qu'un homme de troupe.
Il y avait une très 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 bonne camaraderie, ce qui permettait d'ailleurs de passer les bons et surtout les mauvais moments, parce qu'il y a aussi des mauvais moments. J'ai vécu, j'ai été témoin, pas personnellement, mais j'ai été témoin de choses assez horribles. Et la camaraderie, ça permet de tenir le coup, parce que on arrivait même, pas toujours, mais à pas en rire, mais à relativiser avec une forme d'humour, parce que là, on n'a plus que ça comme arme quand on voit 5-6 copains qui sont en morceaux, quoi, je veux dire. C'est très, très dur. Et on n'a personne, surtout pas la hiérarchie de l'armée. Donc, entre copains, on arrive à se soutenir, à se serrer les coudes et à passer le mauvais cap, quoi. C'était ça. C'était ça, parce que de voir le soir dans la chambrée qu'il y avait 4 ou 5 lits qui étaient vides, voilà. Donc, s'il n'y avait pas eu cette camaraderie, c'était plus difficile à vivre, quoi.
En dehors de la douleur, les hommes partagent aussi des moments de joie simples. Ouvrir un colis, par exemple. C'est l'occasion de créer des liens presque fraternels avec ses compagnons de dortoir.
Il y avait des conserves, il y avait des biscuits, il y avait du chocolat, il y avait des fruits secs, il y avait des... Donc, voilà, alors selon les régions, les gens, ils envoyaient des produits locaux. Et alors, ce qui était super, c'est qu'on partageait toujours. On mettait le colis au milieu de la table et chacun prenait... On partageait, on mangeait pas dans notre coin. Je trouve ça fantastique. Voilà. Et à chacun, même celui qui avait un petit colis, même il y avait 2 plaques de chocolat, bon, ben, il partageait. Ça faisait partie de la camaraderie. On recevait un colis, c'était pour tout le monde. Il était mis en commun, il n'y avait même pas de réflexion. Personne n'avait jamais décidé, c'était comme ça. Le copain qui recevait un colis, il ne se voyait pas manger ça dans son coin. Ça ne lui serait même pas venu à l'idée. On était là, on était dans une galère, il y en avait qui ne recevaient pas, et ben allez, on mettait ça sur la table, et puis on faisait une petite bouffe, voilà.
Ah ben, il y avait le pâté Hénaff, voyons, c'était là. C'était un petit bout de la Bretagne, quoi. Et quand on allait en permission, chacun ramenait une bouteille d'alcool de son coin, de son pays, enfin de sa région. Moi, j'avais amené une bouteille de goutte, bien sûr, une bouteille de gnôl. Là, la piole, on était, je ne sais plus, 8. Ah oui, 8 ou 10. Ah, on l'a sifflé dans la soirée, quoi.
Il n'y avait pas de conflit, il n'y avait pas de jalousie, il n'y avait pas de... Non, ça n'existait pas, ça. Non, non. Il n'y avait rien à gagner, quoi. Il n'y avait pas à gagner un titre, il n'y avait pas à gagner un magot, il n'y avait pas... Il n'y avait rien à gagner, au bout. Voilà. On était là, on savait qu'on était obligés, donc on avait les mêmes motivations parce qu'on subissait les mêmes choses, on vivait les mêmes choses, les bonnes et les mauvaises. Il y a un bon esprit.
Jean-Baptiste Caro.
Première ferme où j'étais, là, il y avait un noir avec nous. Il y avait beaucoup de noirs dans mon régiment, moi, des Congolais. Il y en avait un, il était illettré. Et ses parents lui écrivaient, mais en français. Et il ne pouvait rien lire. En plus, il ne savait pas lire. Moi, il avait créé une amitié avec moi, et puis je le voyais qu'il venait, il m'apportait la lettre, j'ai expliqué la lettre, il fallait la lire doucement, il me comprenait. Oui, mais bien souvent, je le voyais qu'il s'approchait de moi, parce qu'il fallait relire la lettre. Alors, moi, ben, je me faisais un plaisir de la lire.
Les correspondances tiennent une place essentielle dans la vie du soldat. Recevoir du courrier, c'est un moyen d'être relié à la famille et à la métropole. Écrire une lettre, même ordinaire, c'est bien souvent le prétexte pour rassurer son entourage.
Oh, on n'avait pas grand-chose à dire, en fait. On n'allait pas leur expliquer qu'on avait trouvé des copains en morceaux. On n'allait pas dire qu'on avait tué des... etc. Non, c'était... Non, mais c'est vrai qu'on appréciait beaucoup, beaucoup le courrier. C'est drôle. Le courrier, les colis aussi, on appréciait beaucoup. Mais bon, c'était du banal, parce que la lettre, elle pouvait être ouverte à tout instant. Elle pouvait être ouverte, la lettre, par les autorités militaires. Dans les deux sens, d'ailleurs. Elle pouvait être ouverte.
Ouais, ma femme, j'y écrivais... presque tous les jours, à chaque fois qu'on était déjà au cantonnement, bien sûr. Mes parents, peut-être un petit peu moins souvent, mais bon, on écrivait quand même. Mais là, c'est sûr que les lettres, écrire aujourd'hui pour une lettre qui va arriver dans 3 jours, ou dans 4 jours, ou voire une semaine après, bon, t'as beau dire tout va bien, nanana, mais entre le moment que vous faites la lettre et puis que la lettre arrive, il a le temps de se passer beaucoup de choses.
Thérèse et Robert Mounier.
Tous les jours, il m'envoyait soit une carte, soit une lettre.
J'avais acheté un album photo de la ville d'Alger, et tous les jours, j'envoyais une carte à ma femme. Pas ma femme, mais ma fiancée. Voilà.
Oh, il n'y en avait pas tellement de rassurantes. Hein. C'était plutôt souvent l'angoisse. Ouais. Ben oui, parce que malgré tout, c'était la guerre. Hein.
Les militaires restent en moyenne 1 an et demi en Algérie. 18 mois vécus pour beaucoup comme des privations et des sacrifices.
Tout m'a manqué, tout. La liberté, la question de travailler, des sorties et tout ça. Et la nourriture, parce qu'il faut voir que la nourriture n'était pas toujours bonne. Hein. C'était pas, la viande n'était pas très emballée comme dans des frigidaires maintenant, des camions frigorifiés. Il arrivait dans des GMC où c'est que c'était couvert de mouches. Il fallait le laver au jet en arrivant, avant de le cuire.
On s'est mis à manger de tout. Hein. La nourriture n'était pas, comment dire, c'était pas le superflu. Hein. Bon, quand on était en casernement, on avait quand même un peu de cuisine. Quand on partait en opération, ça c'était autre chose. Alors, une particularité en ce qui nous concerne et en ce qui me concerne, comme quand même bon, on n'avait pas mangé à satiété, puis qu'on s'est retrouvé subitement au milieu des vignes, nous on ne savait, on n'avait jamais vu ça, des vignes, du raisin abominablement, ben, on est allé dans les vignes, hein, et puis qu'est-ce qu'on a fait? On a mangé du raisin. Mais ça n'a pas été long. Parce qu'il a fallu poser la culotte, et c'est vite fait. Hein. Donc, on a vite compris qu'il fallait arrêter de manger du raisin. Et du raisin qui était quand même sulfaté à outrance. Hein. Tu veux aller là, va-t'en, tu vas comprendre tout de suite.
En Algérie, l'alimentation et les conditions d'hygiène sont assez sommaires, ce qui provoque parfois des maladies dans les casernes.
Et puis moi aussi, j'ai chopé une jaunisse au début décembre. Bon, alors, on nous envoie à l'hosto. Bon, je reviens au mois de janvier en permission. Je n'avais pas tellement envie de repartir parce que, ben, ma foi, vu les élus qu'on avait vus, où j'étais pas du tout fier de repartir. J'ai fait le maximum pour essayer justement de tirer au flanc. Et je suis allé fin janvier à Saint-Brieuc passer une visite, et là je me suis pointé devant un commandant médecin, et je le vois encore, c'était une pièce assez longue. Il m'a demandé ce que j'avais, je lui ai dit ce que j'avais, il m'a dit oui, j'envoie des dizaines comme vous tous les jours, vous pouvez rejoindre votre corps. Il m'a pas regardé, j'étais pas malade, tant mieux pour moi, mais il m'a pas regardé. Si j'avais été malade, ça aurait été la même chose. Hein? Donc, il a bien compris que j'étais tiré au flanc. Mais je ne me suis pas satisfait de ça, parce que je dis, toi, mon coco, et le lendemain matin, j'ai mon père a une petite moto, je prends la moto, direction Dinan. Direction Dinan, et je suis allé à la contre-visite. Je suis tombé sur un caporal-chef, mais qui était un appelé. Quand je lui ai expliqué mon cas au caporal-chef, il m'a dit, oui, oui, t'inquiète pas, mon petit gars, je vois ton cas, toi. Allez hop, il m'a flanqué à l'hosto. Et puis ben là, j'ai continué à tirer au flanc le plus possible. Mais moi, je me débrouillais toujours pour avoir quelque chose qu'il ne fallait pas dans la table de nuit, genre chocolat, des œufs, machin. C'était le foie qui était en révolution. Ben, je faisais tout ce qu'il fallait pour que le foie soit corruptible. Et donc, ils ne savaient pas quoi faire de moi. Mais par contre, après, ils m'ont envoyé à Rennes pour des examens plus poussés. Alors là, j'étais coincé parce que j'étais sous les verrous, plus le droit de sortir.
Donc, vous vous rendiez malade pour partout ?
Je me rendais malade volontairement. Attention, au risque de crever. C'est là qu'on fait des conneries. C'est dur, mais c'est comme ça. Pendant que j'étais ici, complètement idiot, je mettais des sardines à chauffer
dans la cendre.
Dans le coin du foyer le soir. Oui, complètement fou. J'étais revenu de permission avec un dénommé Daniel Roulier. Il m'avait dit, si t'inquiète pas, je vais te donner la combine pour ne pas retourner en Algérie. Ah bon? Oui, il me dit, tu vas prendre de l'acide picrique. Je ne sais pas si c'était moi. Acide picrique. Bon, je vais un jour à la pharmacie de mon contour, je lui demande de l'acide picrique. Il me dit, non, je ne vous en donnerai pas. Eh bien, je suis sorti de la pharmacie bien penaud. Et je m'en vais. Je descends à la place de mon retour. Mais le pharmacien, il me rattrape. Il me dit, qu'est-ce que vous voulez faire d'acide picrique? J'ai expliqué. J'étais franc avec lui. J'ai expliqué. Il me dit, surtout, ne faites jamais ça. Vous allez vous détruire pour la vie. Donc, il a fallu que je rejoigne mon régiment. Mais entre le moment que je suis parti début décembre 57 et le moment que je suis revenu en Algérie, je rejoins mon corps au mois de mai 58. Et quand les gars m'ont vu revenir, ils disent, mais d'où c'est que tu reviens, toi? On ne pensait plus te revoir. عظم قدر جاه محمد وأنا له فضل عليه عظيما وفي محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه.
Les militaires ont le droit à 3 semaines de permission. Ce retour en France est évidemment salutaire, mais douloureux quand même. Jean Pilorget a dû faire ses adieux une deuxième fois.
Quand je suis revenu en Perme, je ne fumais pas, pour dire, je fumais une cigarette comme ça. Et je suis reparti, donc, je n'avais pas le cafard, mais enfin, il me restait un an à faire quand même, quoi. Je me souviens toujours le soir, quand je suis arrivé au campement le soir, j'ai été au foyer, j'ai acheté un paquet de cigarettes, quoi. Et le lendemain soir, je suis retourné, mais j'en ai racheté un autre. Et à partir de ce jour-là, jusqu'à la quille, j'ai fumé un paquet par jour.
Les soldats repartent au combat le cœur lourd. Surtout que, vu de la métropole, la guerre d'Algérie paraît bien loin du quotidien des Français.
Les gens, ils s'en foutaient pas mal de la guerre d'Algérie. C'était pas leur truc, hein. Ils vivaient en métropole, tout allait bien pour eux. Mais ils se désintéressaient complètement. Je veux dire, fallait même pas qu'on en parle, quoi. On n'existait pas, quoi. Ils avaient leur vie, puis ben voilà, là, se passait là-bas, ben, loin des yeux, loin du cœur, c'est tout. Mais c'est tout, hein. Voilà.
Il n'y avait pas de presse pour dire je vois mes parents, moi, le journal, ils prenaient peut-être le journal du dimanche. Ils n'avaient pas la presse, ils n'avaient aucun renseignement. Mais on ne disait pas la vérité. Les journaux, ils parquaient qu'il y avait une grosse attaque, il y avait toute une compagnie. Je ne sais pas combien de frégates détruites, mais bien souvent, c'était le contraire. On disait qu'il y avait un militaire ou deux tués, quelquefois, il y en avait 15, 20, 30, plus.
Sur le sol algérien, chaque jour est compté. Les hommes n'attendent qu'une chose, retourner définitivement au pays.
Ben, on y pensait tous les jours, hein, parce que tous les jours, ben, on marquait sur le livre, hein, un petit bâton de plus. Il faisait un jour de moins à faire. Mais quand ça arrive, on n'était jamais sûr. On n'a qu'à arriver. Ils devaient partir, à une journée de partir, top. Et ils étaient retenus 15 jours de plus. Sans raison, parce qu'on ne savait pas pourquoi. Alors, tant qu'on n'était pas sûr, même quand tu es sur le bateau, on n'était pas encore sûr de partir. quand il a commencé à décoller du port, c'est là qu'on était content. Après, on ne réalisait pas bien avant.
Thérèse Mounier.
Là, je crois que c'est le plus beau jour de ma vie. C'est le jour que j'ai appris qu'il revenait. Alors, il avait envoyé une lettre d'Alger. Il fallait qu'il retourne prendre le bateau à Oran. Et il mettait quoi sur la lettre? Je peux très bien être tué en allant à Oran.
Ben oui.
Et il mettait donc, je devrais arriver le 11 novembre par le quart de 6 heures. Mais j'avais toujours l'appréhension quand même qu'il n'arrive pas. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien. Je n'ai même pas osé aller jusqu'au quart, parce que le quart passait pas très loin de chez moi. Il passait à combien? 500 mètres. Même pas. Alors je me dis, je vais aller, mais pas jusqu'au quart. Au cas où il ne serait pas là, ce serait encore une grande déception. Mais j'étais pas loin quand même, il y avait un petit virage. Et j'ai entendu le car qui arrêtait. Je me dis, ça doit être bon. Et c'est là que je l'ai vu, qui descendait du car avec sa grande capote et tout. J'ai couru devant lui, puis ben, bien sûr, je l'ai sauté au cou. Hein. On avait quand même préparé chez mes parents un petit gueuleton. Il y avait un bon petit rôti quand même, c'était pas tout le temps le cas. Et puis bon ben, on a bien mangé. Puis après, ben non, il n'aurait quand même pas resté à coucher là. Ça aurait fait un scandale.
Le retour en France, chacun le vit différemment. Alors que certains ont du mal à oublier le traumatisme de la guerre, d'autres essayent de profiter des petits plaisirs de la vie.
En arrivant ici, j'ai acheté une mobylette. Il fallait bien de mobilette parce que pour aller au bal, sortir un petit peu. Il fallait bien se rattraper un petit peu. J'ai été à 17 ans, gagné mon vélo à Jersey. Et à 22 ans, je suis payé de mobilette avec ce que j'avais mis de côté en Algérie.
Je me souviens toujours du premier bal que j'ai fait une fois rentré. Le bal commençait, je ne sais pas quelle heure, moi, 8 heures peut-être à l'époque, ancienne heure bien sûr. Et il y avait un entracte vers je ne sais plus quelle heure, 10 heures ou 11 heures, ben, il y avait un entracte. Et autant comme j'aimais bien danser, le premier bal que j'ai fait, je suis resté planté à regarder les gens danser. Et je n'ai pas bougé. Il y en avait toujours un groupe quoi, qui restait planté à regarder les autres. Quoi. Et après l'entracte, justement, vers 11h ou minuit, 11h30 peut-être, il y a une ancienne copine qui est venue me voir. Puis elle me dit, tu ne vas pas rester là. Elle m'a pris par le bras, elle me dit, viens danser, tu ne vas pas rester là. Et si elle n'était pas venue, je n'aurais pas dansé. On était un petit peu déphasés. Hein. Et il y en a qui sont revenus à moitié dingue, quoi, suivant ce qu'ils avaient vu là-bas. Quoi. C'est comme ça. C'est pour ça que c'est pas beau, la guerre. Les gens n'y croient pas. Les gens n'y croient pas, mais c'est pas beau.
50 ans plus tard, la guerre d'Algérie reste encore un sujet tabou. Depuis peu, les langues se délient peu à peu. Peut-être parce que la société commence tout juste à s'y intéresser.
Moi, ma femme et mes enfants, je leur ai jamais rien raconté. Pour la simple raison, c'est qu'ils m'ont jamais parlé, ils m'ont jamais posé de questions. Et je ne me voyais pas leur imposer ça. S'ils avaient voulu que je leur en parle, ils m'auraient posé des questions. Tiens, t'as fait l'Algérie, comment ça s'est passé? Ils me demandaient pas. C'était pas à moi de leur asséner ça entre la poire et le fromage. Ça les intéressait pas. C'était tout à fait respectable que ça les intéresse pas. Donc, j'en ai jamais parlé. C'est vrai que c'est devenu une guerre péjorative, une guerre honteuse. Et, je sais pas, on a été longtemps culpabilisés, mis un petit peu à l'écart. Une guerre un petit peu honteuse, bah, elle l'était d'ailleurs, comme toutes les guerres coloniales. Mais voilà, mais bon, on s'y fait, hein. On s'y fait bien.
الشرعي